Radio G 101.5 FM.
Il est 21h, passé de quelques minutes. Nous sommes toujours en léger différé façon puzzle sonore et à peu près dans les conditions du direct depuis les studios résistants d'Ingrande Le Fresne sur Loire. Récapitulons. Il a neigé partout en France, sauf dans notre douce région. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas nous écouter, puisque nous avons été contraints de faire avancer le couvre-feu à 18h pour que vous ayez le temps de rentrer chez vous, de vaquer à vos nombreuses tâches domestiques, de manger si vous avez pu faire des courses, ce qui, avouons-le, n'est pas si facile en plus si vous travaillez, et de vous installer confortablement dans un fauteuil loin de votre télévision et des chaînes anxiogènes d'information en mode continu. Il faut privilégier la radio et sa diversité. Et ça tombe bien. Vous êtes toujours en France et vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Vos habituels complices de presque toujours sont avec vous, Linda, Luc et votre serviteur zélé Julien. Bonjour les amis.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre et qui entend vous sortir du noir. Maintenant, générique maestro. les conseils de DJ Ducloc, alias Aymeric Cloche de l'association nantaise Fondue au Noir, vous écoutiez Is It a Crime, un questionnement musical de Sade, sorti en 1986. Au sommaire de cette émission qui aime à explorer toutes les formes du noir et tous les supports, une interview de Slimane Baptiste Beroun pour sa fiction sonore Paranormal Crimes, disponible sur l'application Kobo. Une comédie policière avec des personnages truculents dans un milieu aseptisé, mais où le son revêt une certaine importance puisqu'il dicte certains actes criminels. Dans le cadre de sa chronique « On n'achève pas les classiques », Luc s'intéresse aux enfants du massacre de l'italien Giorgio Serbanenko et nous explique pourquoi il a préféré la première traduction dans la collection « Grand détective » des éditions 10-18 à celle de Gérard Lecaze pour « Rivage noir ». Notre débat DVD portera sur le film engagé « Mora » de Léon Desclozeaux, sorti en 1982 avec Philippe Léotard, Stefania Cassini et Patrick Bouchité. Il est aujourd'hui disponible chez Dorian Film et vous vous apercevrez que nos avis sont assez partagés. Il n'y aura pas cette quinzaine de sueurs froides de Linda. Gageons que la prochaine fois, elles seront doubles. Je vous parlerai en revanche, et pour ma part, du personnage secondaire de l'enquêteur à travers trois romans de la collection Rivage Noir, dont Nothing Man de Jim Thompson, qui vient d'être retraduit par Julien Guérif. Et c'est du lourd. Pour l'heure, on écoute un extrait de Paranormal Crimes de Slimane Baptiste Beroun, histoire de planter le décor.
Bien. Nous sommes le 14 septembre 2020, il est 17h49, arrondissement 50. Cet entretien est réalisé à la demande de Madame le juge Delphine Delattre dans le cadre de l'instruction du dossier JCABJL 17014673. Entretien réalisé au centre pénitentiaire d'Amigny en présence de l'accusée, Madame Rose Grimaud. Madame Grimaud, est-ce que vous savez qui je suis ? Bon, je suis le docteur Herzog et je suis ici dans le cadre d'une expertise psychiatrique demandée par la justice. Cet entretien sera porté au dossier dans le but de statuer si vous présentiez ou non une abolition de votre discernement au moment des faits. Fait que vous ne contestez pas, il me semble. Pardon, mais est-ce que vous pourriez répondre à haute voix pour l'enregistrement, je vous prie ?
Non, je ne les conteste pas.
Bien, le 22 mars 2020, vous vous êtes donc rendu coupable d'homicide sur la personne de Jean-Baptiste Grimaud, votre propre frère. Est-ce bien exact ?
Oui.
Pourtant, vous avez déclaré, et je vous cite, « Oui, c'est bien moi qui l'ai tué, mais je ne suis pas coupable. » C'est bien ce que vous avez déclaré, Madame Grimaud.
Oui.
Bon, vous êtes consciente d'avoir commis ce meurtre, mais pour autant, vous n'êtes pas coupable. Pourriez-vous m'expliquer ce que signifie cette déclaration ? Écoutez, je sais que rien de tout cela n'est agréable, mais dans la mesure où vous encourez la perpétuité, il serait dans votre intérêt de me parler, Madame Grimaud.
D'accord.
Très bien. Donc, pouvez-vous me raconter comment les choses se sont déroulées d'après vous ?
Une succession de meurtres diligentés, on ne sait pas trop par qui, mais on sait comment, doivent être élucidés par un policier. Enfermé dans un asile psychiatrique, une voyante cherche à le contacter. L'enquêteur est sceptique, mais sa mère va jouer un rôle important, plus important que ses vices à lui pour les vidéos porno sur Internet. Le ton est primesautier. On est dans une comédie qui hésite entre le fantastique et le loufoque. Et elle garde une jolie tension narrative qui monte progressivement à mesure que notre attention est captée. Slimane Baptiste Beroun ne le sait peut-être pas, mais il joue sur notre fibre inconsciente du feuilleton radiophonique à l'ancienne, une nostalgie héritée de signés Furax et autres feuilletons cultes. Alors, Slimane Baptiste, pourquoi écrire de la fiction ?
Pour moi, la fiction, c'est surtout un moyen de créer une autre réalité, de créer un monde où tout est possible et où potentiellement tout a du sens, parce que dans une fiction, il faut que tout soit écrit, donc rien n'arrive par hasard, ce qui est assez rassurant en fait. Ce qui m'intéresse, alors premièrement dans les fictions sonores, c'est que j'en ai jamais fait, donc forcément ça a l'attrait de la nouveauté, et c'est surtout le grand pouvoir de l'imaginaire. D'habitude, je filme des images, donc on voit clairement ce qui se passe. Là, on imagine ce qui se passe avec le son, et quelque part, chacun se fait sa propre réalité, sa propre vérité de la chose. Chacun voit les personnages comme il les imagine. Donc, en fait, on fait une fiction pour des gens, et chacun a la sienne. Donc, c'est comme si on faisait autant de fiction que d'auditeurs. Donc, déjà, je trouve ça super. Et en plus, il y a quelque chose d'assez libre dans la fiction audio qui permet de faire des scènes et des aventures beaucoup plus ambitieuses sans en s'affranchissant de beaucoup de contraintes techniques, de contraintes budgétaires, de faisabilité, quoi.
Elle vous apporte quoi, cette fiction radiophonique ?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a un très très grand retour et un engouement pour la fiction audio. Je pense qu'il y a un nouveau mode de consommation qui se crée. Moi, j'ai pas non plus grandi du tout avec ça. J'ai pas du tout la culture de la fiction audio. J'ai découvert ça récemment. Partout où je passe, je vois des gens qui utilisent les transports, la salle de sport, n'importe quel moment pour écouter des histoires, que ce soit de la fiction, que ce soit des livres audio. Donc ouais, je crois qu'il y a ça se développe très très fort. Ouais.
Mais c'est quoi Paranormal Crimes ?
Paranormal Crimes, c'est une enquête menée par un expert psychiatre commis d'office et qui doit faire équipe avec une voyante, une femme qui se dit voyante mais qui est en fait patiente dans un hôpital psychiatrique. Donc c'est vraiment la rencontre de deux univers entre le cartésien et puis la fantasque ésotérique. Et ils enquêtent ensemble sur une série de meurtres où chaque coupable dit avoir été en fait mené à tuer par les sons. C'est-à-dire que les gens éprouvent une démultiplication de la perception du son. Le son devient de plus en plus proche et ça les rend fous. Et au milieu de ces sons, ils entendent des voix qui leur intiment de tuer. Trouver d'où vient ce phénomène, comment le combattre. Et puis, pour l'auditeur, c'est surtout traverser des moments où les sons prennent vraiment le premier plan.
Vous introduisez des éléments actuels, dont le confinement. Pour quelles raisons ?
En fait, pour moi, il apporte surtout une référence commune. C'est-à-dire que chacun sait où est-ce qu'il a vécu le premier confinement. C'est quelque chose qui est très frais et qui, même dans quelques années, tout le monde se souviendra de la première fois où il a été confiné. Du coup, ça renvoie chacun à quelque chose qui a réellement existé dans sa vie et ça peut ancrer encore plus cette histoire dans le réel.
À travers ce que vous avez réalisé, je repère un attrait particulier ou psychopathe pour l'asile et la psychiatrie, c'est conscient ?
Oui, alors, effectivement. C'est pas tant la psychiatrie que le rapport à la folie, je pense, à la maladie mentale. Parce que toujours pour cette question du rapport au réel. C'est-à-dire que pour moi, la maladie mentale, c'est une autre façon de voir le monde, c'est une autre réalité. Et quelque part, c'est pas très loin de la magie pour moi. C'est-à-dire que quand on croit très fort à des choses, à une autre réalité, à un autre monde, peut-être qu'en fait cet autre monde existe. Et de savoir qui a raison, qui a tort, où est la vérité, où commence la raison, où commence la folie. Cette question de la barrière, en fait, elle m'intéresse vraiment. Et c'est pour ça que mon premier court-métrage, c'est une séance de psychanalyse. Mon deuxième roman, c'est un roman qui se passe dans un hôpital psychiatrique parce que quelles paroles on donne aux fous dans les années 50 alors qu'ils vivent des choses traumatiques et est-ce que les médecins finalement à ces époques-là avec les traitements de choc ne sont pas plus fous que les patients qu'ils prétendent traiter. Et puis la dernière série que j'ai réalisée, c'est Mental, qui parle d'adolescents en clinique pédopsychiatrique où là on parle vraiment de troubles bipolaires, schizophréniques, etc. Donc moi c'est plutôt ça qui m'intéresse et pour Paranormal Crimes, je reviens à quelque chose de plus comédie que ce que j'ai pu faire récemment parce que c'est surtout en fait la rencontre de ces deux personnages très très différents qui m'intéressent et puis la façon qu'a le docteur Herzog de concevoir l'esprit humain. Est-ce qu'on peut comprendre l'esprit humain aussi ? Je trouve que c'est une question qui est très fascinante. C'est pour ça que j'ai écrit une série où un des personnages essaye de prédire les comportements humains en utilisant la mécanique quantique parce qu'il dit que si c'est des atomes crochus qui gèrent les relations entre les gens, de pouvoir étudier les relations entre les gens avec la mécanique quantique vu qu'elle décrit le comportement des atomes. Et donc cette idée de est-ce qu'on est prévisible ? Est-ce qu'on répond à des stimuli ? Est-ce qu'au contraire, il y a une part de magie et d'imprévu total dans l'être humain ? Je trouve que c'est une question abyssale et complètement fascinante.
Écrire de la comédie, c'est user d'archétypes. Vous pouvez développer ?
Ça apporte un contraste. Ça apporte un contraste qui permet des situations de comédie beaucoup plus fortes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chaque personnage a vraiment son champ de compétences et ses propres limites, forcément, le confronter à quelqu'un d'opposé va créer des situations de comédie et va nous rendre les dialogues beaucoup plus savoureux et va créer du rythme. C'est un parti pris aussi. C'est que Paranormal Crimes, c'est une enquête, donc ça mélange du fantastique, ça mélange du thriller policier et de la comédie. Et le choix de la comédie fait que j'ai besoin de grossir le trait aussi pour créer ces décalages entre les personnages. Je suis pas du tout dans une optique documentaire réaliste sur comment ça se passerait si un vrai psychiatre devait parler avec une patiente d'hôpital psychiatrique. Ça amène beaucoup de fun, tout simplement. C'est vrai que, alors ça, je sais pas si je l'analyse pas d'un point de vue global. Je sais que moi, dans les dernières choses que j'ai pu faire, je me suis dirigé vers des choses de plus en plus réalistes. C'est vrai. Typiquement, Mental est une série très très réaliste. Et je pense que j'avais envie tout simplement de faire autre chose et de renouer avec la comédie et toute la liberté de l'audio aussi permet d'aller tellement plus loin que le fantastique et la comédie se retrouvent bien, quoi.
comment diable éviter le personnage du flic caricatural ?
Oh, je sais pas, je crois que c'est très difficile de dire voilà comment faire pour pas faire une caricature, c'est avoir des sacrées certitudes qui, à mon avis, mènent forcément à la caricature. Non, moi je réfléchis, j'ai pas réfléchi forcément en termes de flic, le fait que ce soit un flic dépressif, largué par sa copine, et un peu accro au site porno. Bon, je sais pas si c'est caricatural ou pas, pour un flic, pour un homme, aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que dans la palette des personnages qui avaient cette couleur-là était intéressante à mettre en comparaison avec la Reine de Saba, avec Herzog. Ça créerait les décalages de comédie dont je parlais plus tôt.
Quels sont les comédiens qui jouent dans Paranormal Crimes ?
Alors moi je joue toutes les petites voix annexes parce que vous savez qu'en fait une fiction audio ça se fait quand même dans une économie très maîtrisée et que donc on doit aussi penser au nombre de voix dès l'écriture, combien de personnages, combien de comédiens vont pouvoir faire combien de personnages, est-ce qu'un comédien fait deux personnages, trois personnages, et donc en fonction de ça, ça donne un peu une sorte de cahier des charges de qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est pas possible. Et moi je me suis donné les petites voix où on va pas faire venir un comédien juste pour dire à Dr Herzog il y a un appel pour vous, ou un infirmier qui dit s'il vous plaît lâchez le combiné. Donc moi je suis là en fait. Alors il y a Benoît Blanc qui fait le docteur Herzog, il y a Alicia Ava qui fait la Reine de Saba, il y a Nicolas Bernot qui fait Ronnie Franco le flic, il y a Anne Comte qui fait Cap Gras, il y a Manoé Richardier qui fait Grimaud, il y a Jacques Courtès, Claudette Walker qui fait la mère. Ils sont sept plus moi qui fais des interventions par-ci par-là.
Vous pouvez nous dire quelques mots sur le séquençage de la série, de ses épisodes et sur vos projets à venir ?
Alors la question du séquençage, c'est une très bonne question qu'il faudrait plus poser à Kobo, parce que en vrai ça fait partie du système d'écoute du device. Moi je maîtrise pas du tout ça. Moi ce que je peux vous dire, c'est que on m'a demandé d'écrire des fictions longues, parce que visiblement les gens qui s'abonnent, qui payent pour de la fiction, ont envie de passer un vrai moment dedans, et que ce soit pas juste un mini contenu qui ressemble plus à un bonus. Et ça je peux l'entendre. Moi ça m'intéressait aussi d'écrire quelque chose de long, parce que j'ai fait du sketch par le passé et que vraiment je me dirige de plus en plus vers des histoires plus longues. Donc ça allait bien aussi à mon écriture. Maintenant, comment on fait pour que les gens ne s'ennuient pas ? C'est toute une question de rythme, et j'espère que c'est réussi, je sais pas, mais ça fait partie de choisir où est-ce qu'on commence une séquence, où est-ce qu'on la finit, comment on enchaîne les effets sonores pour que deux séquences de suite ne se ressemblent pas, créer un rythme en termes de dialogue, en termes de ton, que ce soit comédie, puis sérieux, puis recomédie. En fait, c'est casser le rythme à chaque fois pour renouveler l'intérêt, faire en sorte que l'enquête avance quand même suffisamment ou soit suffisamment mystérieuse pour qu'on s'y intéresse. Voilà, après, tout ça, c'est très subjectif, évidemment, hein. C'est écrit à l'oreille. C'est-à-dire que j'écris et puis j'écoute en lisant. Et je me dis est-ce qu'il y a un moment, est-ce que ça devient long, est-ce que ça devient lent, est-ce qu'il y a un temps mort, est-ce que là il y a bien la place pour que ce soit pas que des paroles mais qu'il y ait aussi du son, parce qu'on est dans une expérience audio de fiction, donc il faut aussi que le sound design, l'habillage ait sa place. Voilà, c'est une réflexion globale. Et moi j'ai été surpris en fait à l'écriture parce que pour vous dire la vérité, les épisodes tels que je les avais écrits devaient durer entre 50 et 55 minutes, calibrés sur un format de scénario vidéo. Donc je m'attendais à faire des épisodes de 50-55 minutes, et en fait l'écriture audio est très très différente en termes de rythme, et les épisodes ont été plus courts que ça. Voilà, en fait il faut voir ces deux premiers épisodes comme une enquête à proprement parler, c'est-à-dire que c'est comme un film, ça dure grosso modo 80 minutes, c'est une aventure de ce duo. Bah, vous savez, quand on fait de l'audiovisuel, de la série par exemple, il y a toujours moyen de faire des nouvelles choses. Moi, j'ai jamais fait de série, pour Netflix par exemple, de série fantastique. J'ai jamais fait de série fantastique, donc c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. J'ai jamais fait de film non plus. J'ai fait des séries, mais je fais de la série télé, je fais de la série digitale, je fais de la série audio. Mais j'ai pas fait de film, donc je pense qu'un jour ça va m'intéresser aussi de faire des films. Ma grande frustration dans la vie, c'est de ni savoir faire de la musique, ni savoir peindre. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à faire des images et à écrire des textes et diriger des comédiens, parce que c'est maîtriser une sorte de musique et une sorte d'esthétique de l'image sans savoir peindre. Donc c'est comme ça que je compense mes frustrations. Donc après, je peux explorer effectivement les différentes voies qui me permettent de faire ça.
On écoute quoi comme musique ?
Ah bah je pense qu'on va écouter du Queen. On va écouter du Queen parce que c'est toute mon enfance et que je suis un fan inconditionnel de Queen. Donc moi on me met un petit Bohemian Rhapsody et je suis très content. Merci à vous. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need
Easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo
Figaro. Magnifico!
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Never let me go!
No.
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me.
Oh, baby.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM. C'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir. Nous écoutions Bohemian Rhapsody, un indémodable de Queen sorti en 1979, choix musical de Slimane Baptiste Beroun, que nous remercions pour cet entretien passionnant sur une création sonore, Paranormal Crimes, véritable comédie policière à découvrir sur Kobo. À noter que sur cette même application, vous pouvez également découvrir deux autres fictions sonores qui vous plairont à coup sûr, l'affaire Dracula et l'affaire Frankenstein. Deux séries d'enquêtes criminelles qui remettent de façon originale des personnages d'épouvante sur le devant de la scène. Petit extrait de l'affaire Dracula.
L'équipage est composé de 5 hommes, 2 officiers en second, le cuisinier et moi, le capitaine. Le 27 octobre, nous arrivions au Cap Thénard. C'est là que pour la première fois depuis notre départ, je sens que quelque chose ne tourne pas rond. Les hommes sont nerveux, mais aucun ne veut parler. Le 29 à l'aube, le second m'annonce que la relève vient de trouver Petrovski, renne mort sur le pont arrière.
Tout ça est bien joli, mais n'oubliez pas que vous pouvez également acheter chez votre libraire préféré des livres audio. Depuis quelques années, ils se sont particulièrement bien développés et nombre de romans contemporains y sont au catalogue. Enfin, France Culture et son département fiction proposent aussi de très bons moments de détente intelligente. Mais c'est maintenant l'heure de la chronique « On n'achève pas les classiques de Luc ». Et derrière Luc se cache un Rital qui s'ignore, pas vrai ?
En ces temps de confinement, un petit voyage en Italie, ça vous dit ? Milan plus particulièrement. Et je vous emmène à la rencontre du trop fameux Duca Lamberti, héros de Giorgio Serbanenko. Pour ce roman, il nous emmène dans l'univers de l'adolescence perdue des années 60, une autre époque, un autre siècle. Le roman en question s'appelle « I ragazzi del massacro », « Les enfants du massacre ». Et sans connaître un traître mot d'italien, j'ai l'intime conviction que la traduction du titre est parfaitement conforme. Alors, dans ce roman, la version que j'ai lue est celle des éditions 10-18, collection Grand Détective, traduction Roland Stragliati. Duca Lamberti, le personnage de Giorgio Serbanenko, enquête sur la mort d'une institutrice. Pas n'importe quelle mort. Une mort après qu'elle ait été massacrée par un groupe d'adolescents. Pas par n'importe quels adolescents, mais des délinquants qui ont obligation d'aller au cours du soir André et Maria Fustagni pour ne pas aller en maison de correction ou en prison. Pas n'importe où, mais dans leur classe. Le corps de l'institutrice étant découvert encore en vie par la gardienne de l'école, l'institutrice décédera peu de temps après. C'est donc Duca Lamberti qui est en charge de l'enquête, policier, médecin radié de l'ordre. Et ayant fait 4 ans de prison pour euthanasie, il est assisté de Mascaranti et a pour chef Carua. Devant ce massacre, il va très rapidement apparaître à Duca Lamberti que l'explication ne peut tenir seulement à un simple débordement de violence d'un groupe d'adolescents. La scène de crime est presque trop théâtralisée. Pour lui, un adulte se cache devant cet acte inimaginable. Duca Lamberti est un policier aux méthodes radicales. Sa hiérarchie craint ces écarts violents et puisque ce sont des adolescents qui sont les protagonistes, il ne lui est accordé aucune tolérance quant aux méthodes auxquelles il peut recourir. Pour les interroger, il va donc utiliser des voies de contournement peu académiques. Par exemple, en inondant la chaise d'interrogatoire d'un alcool anisé très fort, alcool que les adolescents ont bu pendant le massacre et ont encore la gueule de bois. Plus surprenant, il va demander l'autorisation d'en accueillir un chez lui pendant plusieurs jours pour le faire craquer en lui donnant le goût à une vie confortable. Mais bien évidemment, le petit voyou, comprenant le stratagème, va s'enfuir. Les enfants du massacre, c'est du brutal, comme on aurait dit dans les tontons flingueurs, et du brutal dans tous les sens du terme. la violence de l'assassinat de cette jeune institutrice, les comportements de ces petites frappes, la description de l'Italie des années 60 qui nous plonge dans une époque qui nous semble si loin de nous avec ses Fiat 500, sa misère, ses enfants qui crèvent de faim et comme dans tant de pays, ses adolescents qui semblent livrés à eux-mêmes dans une société hyper conservatrice. Giorgio Sermanenko écrivit beaucoup, énormément et dans tous les genres, science-fiction, romans à l'eau de rose, romans policiers, y compris le courrier des cœurs dans les journaux pour qui il travaillait. Son personnage Duca Lamberti, 35 ans, cheveux coupés très courts, capable de violente colère, n'apparaît que dans 4 romans, mais il va marquer le polar de son empreinte. Yves Boisset s'y intéressa en réalisant son deuxième long-métrage, Cran d'arrêt, à partir du roman Vénus privée. Giorgio Sermanenko est le reflet de son époque. Il a un problème avec l'homosexualité. Un des adolescents est homosexuel. Une phrase, par exemple, « Il ne voulait pas qu'il meure parce que, s'il était anormal, ce n'était cependant pas un criminel. » Ou, par rapport à un couple de femmes homosexuelles, lui aussi, il a cette pensée. Il regarda les deux femmes qui se tenaient devant lui, la sœur de Paolino Bovino, la doctoresse, et il eut pitié d'elle. Son policier se comporte en aristocrate et exprime un mépris de classe. Parlant d'une vieille femme de ménage qui a nettoyé méticuleusement le bureau de Duca Lamberti, elle briquait avec amour les pauvres meubles qui le garnissaient. Chacun se choisit un idéal à sa mesure. C'est bien une époque qu'il s'agit. J'en veux pour preuve aussi un détail, les bruits de la ville qui envahissent systématiquement les appartements que les gens habitent ou les bureaux de travail. Il existe 2 traductions de ce roman, celle de Roland Stragliati pour les éditions 10-18 et celle de Gérard Leca pour les éditions Rivage. Pour ce qui me concerne, j'ai préféré la première qui nous replonge bien dans cette époque. Il me semble que celle de Rivage, la plus récente, édulcore plus les aspérités sociologiques exprimées par Giorgio Sermanenko, les déshistorise. Cela s'appelle « Les enfants du massacre ». C'est de Giorgio Sermanenko. Je vous conseille l'édition 10-18 dans la collection Grand Détective. Et c'est à consommer sans modération.
Merci Luc pour ce choix de relecture. La série autour du personnage de Duca Lamberti est bien entendu à redécouvrir pour comprendre une certaine Italie. Et c'est voyager à très peu de frais, comme tu l'as dit. Mais vous entendez cette petite musique ? Eh oui, c'est l'heure de notre débat autour de Mora, le film de Léon Descloseaux avec Philippe Léotard en photojournaliste dans une dictature sud-américaine. Film qui est disponible actuellement en DVD chez Dorian Film. On écoute tout d'abord un petit extrait et on en parle tous les 3.
Depuis un mois, je fais un reportage sur la situation agricole dans le pays.
Genre à plantation de choux de Bruxelles en Amazonie?
Oui, et crois-moi, ça va faire un malheur. Je prends un pot avec lui, ben viens avec nous.
Ouais, ça me changera les idées.
Oh, t'as pas l'air dans ton assiette.
Il vient de m'arriver un drôle de truc.
Quoi? Une histoire de femme? Christina, je te présente Mora, un vieil ami d'enfance. Mora, Christina.
Encantada.
Mais t'inquiète pas, elle comprend pas le français.
Voilà une grosse tchèse.
Alors, raconte.
Non, pas maintenant.
Qu'est-ce que tu veux boire?
Oh, un double whisky.
Monceau, un double whisky, por favor. Alors, ton histoire?
Tu me croiras pas.
Pourquoi? Si, vas-y.
Il n'y a pas une heure, j'étais... Je suis allé au Bilbao, non? J'étais là, je buvais tranquillement un verre.
Les amis, en voilà un film qui ne laisse pas indifférent. Mora de Léon Desclézeaux. Mora, Philippe Léotard, c'est un photographe, il séjourne dans un pays d'Amérique du Sud. Choisissez l'Argentine en 1976 ou le Chili en 1973. Alors qu'il est dans un café avec une jeune fille à qui il donne des leçons de photographie, il assiste à l'assassinat d'un homme et comme tout bon photographe, il dégaine son appareil et mitraille la scène. Un soir, dans un bar, un ami, Carrère, Patrick Bouchitel, l'aborde. Ils prennent un verre ensemble. Mora raconte à Carrère qu'il vient d'avoir une aventure avec une femme, mais que des hommes l'ont enlevé. Il les a poursuivis et, que croyez-vous qu'il arrive, il prend en photo ces hommes aux allures de gangsters, en train de brutaliser cette femme. Un serveur prévient Carrère qu'il a un appel téléphonique. Pour nos jeunes auditeurs, il n'y avait pas de portable à l'époque. Carrère revient et demande à Mora de raccompagner Christina, la fille qui était avec lui. En fait, c'est un piège. Christina va lui demander les négatifs de l'assassinat. Elle lui révèle que Carrère et elle font partie d'un réseau de révolutionnaires. Mora doit aller chercher quelqu'un à l'aéroport, mais il en est empêché par des policiers et des militaires. Dans le ciel, un hélicoptère tourne. Il rentre en ville, croise Carrère apparemment par hasard qui lui conseille de se cacher dans un hôtel éloigné, mais Mora méfiant va se réfugier chez Christina. En sortant de chez elle, il va être pris en chasse par des militaires. Quel exercice de haute voltige que d'essayer de présenter ce premier film de Léon Desclézeaux, Julien, réalisé en décembre 1982. Il a 31 ans quand il réalise le film. Il a un master recherche études cinématographiques et audiovisuelles et il a été reçu à l'IDEC, ancêtre de la FEMIS. Les dialogues sont de lui et de Michael Lonsdal. Mais tout ça pour quel résultat? Juste par comparaison, en 1982 au mois de mai, quelques mois avant donc, sortait un film qui abordait une thématique proche, Missing de Costa Gavras. D'accord, c'est Costa Gavras, vous me direz. Ce n'était déjà plus un débutant, mais on sent bien que Léon Desclézeaux lorgne vers ce cinéma, Z, L'aveu par exemple, mais le résultat est pâle, si pâle.
Mais tout d'abord, je voudrais dire merci Julien de m'avoir fait découvrir ce film, parce que je ne sais même pas si j'avais déjà vu un film avec Philippe Léotard aussi jeune. Et j'avoue que j'ai un vrai attachement pour cet acteur. Il a un jeu, je dirais, dépouillé, je trouve ça un petit peu impensif, mais oui, il est nu, il ne se cache pas derrière des trucs, et c'est touchant, voilà. Je suis bien contente de l'avoir vu aussi jeune. Bon, ceci étant dit, je vais vous faire un deuxième aveu. Pendant tout le film, j'ai cru qu'on était en Espagne. Alors je me suis dit, ça doit être sous Franco. Est-ce que c'est une plongée dans le passé? Enfin voilà, j'étais avant de découvrir. Je me suis quand même. Attendez, j'ai quand même ma petite voix qui m'a dit c'est tout de même curieux qu'ils écoutent du Carlos Gardel et de la salsa en boucle comme ça. Mais bon, bref. Ma petite voix n'a pas été assez forte. Pourtant, je vous assure, j'avais rien pris de spécial avant de regarder le film. Et j'ai découvert après. Donc c'était en Amérique latine. Ceci dit, hein. On ne sait pas trop où, quand même. Hein, c'est assez large. Ça m'a peut-être même un petit poil gêné, le côté, ça pourrait se passer presque n'importe où. Alors, je sais bien que j'imagine que c'est une façon d'ouvrir, d'universaliser le propos. J'étais un peu dubitative par rapport à ça quand même. Je me suis dit que ça simplifiait un petit peu quand même les données. On peut pas non plus appliquer une situation à partout dans le monde. Enfin bref. Bon, ces émois étant passés, moi je vais vous parler d'une part de ces allers-retours. J'ai trouvé beau entre le film et la photo. C'est-à-dire qu'on a des scènes qui se passent pendant lesquelles le personnage prend des photos et donc après on a des retours sur ces scènes par les clichés. Prenons la scène de l'assassinat. Enfin, de l'assassinat, comme s'il n'y en avait qu'un. Enfin, bon, le pitch de départ, Maura est là en train de prendre des photos de tout, de rien, depuis un café et il assiste à un assassinat dans la rue. Il a l'appareil à la main, il prend des clichés. Donc on a cette scène qui arrive là comme ça, on la voit pas venir parce que ça parle de façon assez futile, on sait pas trop avec qui il est cette jeune fille, il a l'air de bien la connaître, il plaisante. D'un seul coup, des coups de feu, un homme qu'on aperçoit dans la rue qui a l'air de venir vers le café en question, qui s'écroule. Lui a pris des photos, il les développe et là on voit vraiment l'opposition en fait entre le film qui est dans le mouvement forcément, qui est dans la vie, mais qui du coup s'arrête pas, une espèce de fuite permanente comme ça où le présent est déjà du passé, et puis ces photos qui ont capturé des instants de vie, d'intensité, qui vont nous permettre notamment aussi d'avoir donc des détails qui ont échappé sur le moment. C'est pas sans faire penser évidemment à Blow Up. Et c'est cette opposition qui, quelque part, rend presque l'image fixe plus vivante et plus intense que l'image en mouvement. Ça, j'ai trouvé ça assez... Surtout que les clichés, ils ont un bon rendu noir et blanc. Enfin, ils sont captivants. Voilà. Il y a un autre aspect, moi, qui m'a interpellée. C'est à plusieurs reprises le personnage a affaire à des, on va dire, des contrôles routiers, mais contrôles routiers avec armes de guerre. On vous somme de mettre les mains sur le, il est en voiture, donc sur le volant, il doit sortir le passeport, ouvrir, mais avec des canons pointés sur lui, quoi, avec des forces de l'ordre qu'on peut pas identifier, qu'elles aient ou non, j'allais dire des habits, que ce soit, ce sont des militaires ou pas des militaires, de toute façon, il n'y a pas de signe distinctif. Donc on est face à des gens sans signe distinctif, armés, et qui ont pouvoir sur vous. Et bien, quelque part, moi, c'est pas sans me faire penser à certaines choses que certains essaient de faire passer dans la loi à l'heure actuelle. Et là, de le voir en image, il y a quand même ça, un moment de silence qu'on est saisi, silence intérieur. Voilà. Bon, moi je dis ça, je dis rien de plus. Et puis, voilà, c'était pas mal, hein. Merci.
Alors, je vais tenter de jouer les pacificateurs autour de ce film qui est réédité en DVD chez Dorian Film. Je suis d'accord avec Luc, le film a des défauts. Et il est terriblement ancré à la fois par son style et la thématique dans les années 1970. Même s'il est tourné en 1982, il vieillit aussi mal globalement que nombre de films français de la décennie précédente. Enfin, surtout les thrillers et les films politiques. Néanmoins, je rejoins Linda quand elle parle de Philippe Léotard, même si, déjà jeune ou pas si jeune, il fait vieux. C'est toujours un plaisir pour moi de découvrir le jeu de Philippe Léotard et d'accepter son charme énervant. Surtout qu'il est fait pour le rôle de photographe, à la fois baroudeur et d'investigation. On y croit quand on le voit déambuler dans les rues d'une ville sud-américaine sous dictature. On y croit d'autant plus que c'est El Frances. Et que l'on comprend que même si tout le monde peut disparaître, sa disparition à lui pourrait être diplomatiquement problématique. On s'interroge sur ce photographe sans dessous dans un pays d'Amérique latine. Moi, j'ai apprécié ses allers-retours entre la rue, qui est son élément, et son appartement dans lequel il a une chambre noire à la lumière rouge. Bon, avec parfois des moments étonnants comme lorsque son propriétaire vient chercher son loyer et qu'il tombe devant les photos de l'assassinat d'un homme alors que lui croyait qu'il faisait des photos d'art. Et cette provocation de Philippe Léotard quand il lui assène que la violence est un art. Enfin, son appartement c'est son havre de paix, son point d'ancrage. Et pourtant, il va être violé et trahi. J'ai apprécié de revoir ces petites boîtes en carton de photos estampillées Ford. Je ne peux pas vous cacher qu'il y a une pointe de nostalgie pour l'argentique quand on regarde ce film. Et puis, il y a cette intrigue sur fond de révolutionnaires idéalistes et de petits complots dont il est l'un des rouages. À tel point que tout ce qui arrive à Maura peut être sujet à caution. Surtout qu'à plusieurs moments, on a l'impression qu'il passe son temps à attendre des femmes dans des bars et à faire de curieuses rencontres, comme ce gangster américain incarné par Bob Rafelson. Après, le film noir avait compris que le spectateur avait besoin de repères forts, et quand il opposait deux femmes, il y en avait une brune et une blonde. Et bien là, Ariel Bess et Stefania Cassini sont deux brunes que l'on peut confondre, même si la seconde a plus de charisme que la précédente. J'ai eu du mal à croire en la vocation révolutionnaire de la première. Alors, faut-il dénoncer pour changer le monde ? En 1982, on avait encore le droit de penser que le journalisme d'investigation était un révélateur de la noirceur du monde. On avait encore le droit de croire au pouvoir de la presse. Aujourd'hui, tout ça nous revient en pleine gueule et ça fait mal de constater que le journalisme tel qu'il a existé en France n'existe plus et qu'il a été remplacé par un truc. Pas envie d'y mettre un autre qualificatif. Il faut voir ce film comme une curiosité intéressante qui offre une confrontation idéologique entre Philippe Léotard et Patrick Bouchité. Un film engagé avec beaucoup de maladresse et des moments plus réussis. Je rappelle que Mora, de Léon Descloseaux avec Philippe Léotard et Patrick Bouchité, ressort en DVD chez Dorian Film. Mais je sais que Luc, à qui je laisse la dernière parole, sera bien moins tendre que moi. Vas-y, Luc.
Les amis, je n'irai pas par quatre chemins. Ce film est un exercice que je qualifierais de prétentieux et putassier. Il se prétend politique, et voyez le niveau, quand il fait dire à François Léotard « La violence, c'est de l'art ». Et la fin du film, cette longue déambulation christique ridicule au point d'être drôlatique de Mora portant Christina morte. Et ce diaporama d'images noir et blanc, façon photo de presse prise sur le vif pour montrer son assassinat, travail de débutant, sabotage cinématographique devrais-je dire. Et qu'il s'agisse d'un premier film n'excuse rien. 4 mois après la sortie de Mora, sortait sur les écrans Le Dernier Combat de Luc Besson, son premier long-métrage. Ça a quand même une autre allure, non ? Et dans les premiers films, souvenez-vous aussi de La vie des autres, premier long-métrage de Florian Henkel von Donnersmarck. C'est pas du cinéma, ça aussi ? Alors non, Mora, je préfère oublier.
Et les meurtres incomplets font horreur à la monnette qui n'aspire qu'au parfait, qui n'aspire qu'au parfait. L'homme dort comme un boulet, plante ce couteau minette, la nuit saoule de planète, ne se souviendra jamais, ne se souviendra jamais, 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 jamais. Droit au cœur discret, qui dans son profond palais sait mourir sans chansonnette, plante ce couteau minette, la nuit saoule de planète, ne se souviendra jamais, ne se souviendra jamais, 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 ne se souviendra jamais.
Vous êtes bien sur le 101.5 FM, c'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir, et c'est sur Radio G. Nous écoutions Chanson à tuer de Jeanne Moreau, toujours sur les conseils d'Emeric Cloche. Je vous rappelle Mora de Léon Descloseaux, avec Philippe Léotard, Patrick Bouchité et Stefania Cassini. C'est chez Dorian Film, et ça ne vous laissera pas insensible. Partons maintenant vers d'autres rivages. Autant les romans de Giorgio Cerbanenko mettent en scène un personnage principal de policier, Duca Lamberti, dont Luc nous a parlé, Autant ceux de Donald Westlake et son alter ego pseudonymique Richard Stark s'intéressent, eux, aux personnages qui sont de l'autre côté de la loi. Arrêtons-nous un moment sur le personnage de Parker. Parker, c'est un gangster pur et dur qui, à l'inverse du personnage de Dortmunder que l'on trouve chez Donald Westlake, est froid et n'hésite pas à commettre des meurtres de sang-froid. Parker, c'est 24 romans. La série débute en 1962 et intéresse très vite le cinéma dont Jean-Luc Godard et John Borman. Plus tard, l'auteur de comics américain Darwin Cook l'adaptera magnifiquement en bande dessinée. D'ailleurs, c'est disponible chez Dargo. J'ai relu dernièrement Breakout et Le Septième. Les trames sont similaires. Parker se retrouve embarqué par d'autres gangsters pour un cambriolage soigneusement préparé, mais un élément, un cambrioleur, va faire capoter l'affaire. Alors, Parker doit réagir, faire un trait sur l'affaire et tenter de s'en sortir du mieux qu'il peut. Face à lui, figurez-vous, il a à chaque fois un personnage de flic intelligent et compréhensif qui lui dame partiellement le pion. Turley dans Breakout et Doherty dans Le Septième. Ces deux flics sont des personnages secondaires, mais ils revêtent une importance capitale. On la doit, cette importance, à leur personnalité, mais aussi à leurs aptitudes. Ils sont opiniâtres et ont du flair. Grâce à eux, la loi ne sort pas complètement humiliée. Et c'est bien là le principal. Quant à Parker, anti-héros d'exception, il finit à chaque fois par s'en sortir, que ce soit avec l'aide de routiers forcément sympas dans Breakout, avec là un message de rédemption, ou tout seul après avoir fait le ménage dans Le Septième. Pire, la morale s'en prend un coup. Il réussit à chaque fois à récupérer une partie du butin. Les personnages de flics psychopathes, Jim Thompson les connaît bien, lui. L'écrivain de The Killer Inside Me fait l'objet d'une réédition actuellement chez Rivage. Nothing Man est un très bon cru qui met en scène une réalité tordue par les errements de Clinton Brown. Ce journaliste au courir dans la petite ville côtière de Pacific City est un ancien soldat qui a été émasculé lors d'un tragique accident de guerre. C'est un cynique désabusé qui a renié sa femme en raison de ce qu'il pense de son nouveau lui. S'ensuivent trois meurtres du tueur ricanant qui laisse des poèmes à proximité de ses victimes. Comme tout bon journaliste, Clinton Brown entretient une relation amicale avec un flic pourri juste comme il faut. Stuckey. C'est lui qui enquête. Personnage ambigu, complexe, à la fois attirant et repoussant. La grande originalité de Jim Thompson, c'est bien cette capacité qu'il a à inverser les rôles. Au début de ce roman, Clinton Brown est le personnage principal, tandis que Stuckey est un personnage secondaire, voire périphérique. À la fin, Stuckey se révèle une pièce angulaire, maîtresse de l'intrigue. Et ça nous prouve le talent indéniable de Jim Thompson. Nothing Man de Jim Thompson, c'est chez Rivage Noir, comme les Parker de Richard Stark. Et là, c'est dans une nouvelle traduction de Julien Guérif. À découvrir. Pour retrouver le sommaire de l'émission Calibre 58, deux adresses. Le site de Radio G et sa page dédiée à notre émission, et la page Facebook Calibre 58. C'est l'heure de vous quitter. On vous dit à dans 15 jours, on vous laisse avec nos amis imaginaires. Salut Linda, salut Luc, et encore merci.
Au revoir Julien, au revoir à tous, et puis à bientôt, pour de vrai, j'espère.
C'est déjà fini? Bon, alors, au revoir les amis.
www.radio-g.fr Far, she says. The says. So it's like the gardens of Luxembourg and other feline experiences. Skinny, but she's sharp-eyed, low-brow, big lipstick, drinking my coffee, shutting down my system. Every time it rains, there's another moment that reminds me I'm doing something wrong. Caustic, motherfucker. D'Etoile, she says. D'Etoile, she says. Fuck it. So I'm not lonely, but I am sore because the lift won't go to the top floor. And the lift never did. She's too skinny. D'Etoile, she says. What does she say? D'Etoile. Why? Fuck knows.
Hey, so we're going to be okay as long as you don't look behind you then.